VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les États-Unis ont tué le général Qassem Soleimani, le commandant d'une unité d'élite des forces iraniennes et fer de lance de l'influence militaire grandissante de Téhéran au Moyen-Orient dans une frappe menée ce vendredi à l'aéroport de la capitale irakienne, Bagdad. Il s'agit d'un réveil important pour l'Iran dans un climat de tension avec les États-Unis qui se sont accentués depuis une semaine. Idrissa Seydoudia revient sur les circonstances de la mort de ce chef du corps d'élite de l'armée iranienne.
Le général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, a été tué dans une attaque américaine au missile tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad en Irak. Et dans un communiqué publié peu après cette frappe, le Pentagone a confirmé la nouvelle, ajoutant que le président Donald Trump a ordonné cette attaque pour dissuader les futurs plans d'attaque iraniens et que les États-Unis continueront de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur peuple et intérêts où qu'ils se trouvent dans le monde. À Bagdad même, les officiels irakiens ont annoncé aussi la mort d'Abu Merdi al-Muhandis dans les mêmes frappes américaines. Il s'agit du numéro 2 du Hashd al-Sha'bi, une coalition de militaires majoritairement pro-iraniens, désormais intégrée à l'État irakien. Elle était derrière l'attaque de mardi contre l'ambassade américaine à Bagdad. Les mêmes officiels disent ne pas savoir le nombre exact de victimes, mais pense qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans les raids américains.
Et la Chine a fait part ce vendredi de sa préoccupation et a appelé au calme après ce raid revendiqué par Washington qui a coûté la vie au général Qassem Soleimani, homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient. La France a plaidé pour la stabilité au Moyen-Orient, estimant, je cite, que l'escalade militaire est toujours dangereuse. Le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a dit que l'action américaine allait déclencher une guerre dévastatrice en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a menacé de venger la mort de Soleimani et décrété un deuil national de 3 jours. La frappe américaine qui intervient 3 jours après une attaque inédite contre l'ambassade des États-Unis en Irak a visé un convoi près de l'aéroport de Bagdad. Ici aux États-Unis, le petit État de l'Iowa dans le Midwest sera le premier à se prononcer sur le candidat que les démocrates comptent investir pour affronter à l'élection de novembre le président républicain Donald Trump. L'État n'est pas très peuplé ou diversifié comparé à d'autres, mais le caucus de l'Iowa en février, des réunions où les électeurs se réunissent pour décider de leur candidat préféré, peuvent donner une impulsion à une campagne politique ou freiner son élan. Reportage, Salwa Jafari.
Alors que les températures hivernales commencent à plonger, la campagne pour séduire les électeurs de l'Iowa se réchauffe.
J'adore la saison des caucus dans l'Iowa.
Darrell Morph fait partie des centaines de personnes qui se sont alignées dans le froid pour assister au discours du maire de l'Indiana, Pete Buttigieg, dans un collège local. Alors que Washington se concentre sur la destitution du président Donald Trump, Morph assure qu'il a plutôt d'autres problèmes en tête.
Comment allons-nous maintenir la sécurité dans le monde à ce stade? Et je pense que les gens s'inquiètent beaucoup du climat ici dans l'Iowa. Ce serait une autre préoccupation majeure.
Morph dit que les habitants de l'Iowa veulent que les candidats abordent les questions qui leur importent. Jusqu'à présent, il n'a pas encore décidé qui, selon lui, est le mieux qualifié pour le poste de candidat démocrate.
J'ai un penchant pour Buttigieg en ce moment, mais Biden est probablement quelqu'un que je continuerai à suivre, ainsi que Amy Klobuchar.
À quelques semaines des caucus de l'Iowa, les candidats manquent de temps pour gagner des voix. Timothy Hagel est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Iowa.
C'est là que vous commencez à voir la course. Certaines personnes montent, d'autres descendent. Peut-être verrons-nous quelques personnes abandonnées ou du moins ce ne pas participer en Iowa. Alors ça devient intéressant.
William Clayton s'est rendu du Wisconsin à Dubuque, Iowa, pour assister à un meeting électoral de l'ancien vice-président Joe Biden. il votera pour quelqu'un qui battra le président Trump dans son district rural.
Certains d'entre eux sont pour Trump, quoi qu'il arrive. Et il y en a d'autres qui ne l'aiment pas du tout.
Darrell Morph dit qu'il craint que les candidats progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont ne soient pas à la hauteur lors de la présidentielle face à Trump en novembre.
Aux élections générales, il y a énormément de gens qui sont au milieu et ils vont examiner et décider si les candidats sont trop extrêmes.
Les candidats démocrates ont jusqu'au 3 février pour présenter leurs arguments aux électeurs de l'Iowa.
Merci, Saloua. En Indonésie, les secours continuent à rechercher aujourd'hui une dizaine de personnes disparues depuis les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé la nuit du réveillon du Nouvel An, la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la capitale indonésienne. Les précipitations d'un niveau record qui ont frappé Jakarta et ses 30 millions d'habitants ont transformé des quartiers entiers de la mégalopole en des terrains vagues jonchés de voitures retournées au milieu de bâtiments endommagés. Environ 400 000 habitants ont été évacués dans des abris temporaires et de nombreuses personnes ne peuvent pas toujours regagner leur domicile, leur maison étant submergée selon les autorités.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sur le continent, le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié jeudi 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme Peter Biya Kajar, condamné en juin à 2 ans de prison pour espionnage pour avoir donné des interviews à des médias étrangers. Ces 6 co-accusés, lui, avaient été inculpés en mars 2019 à la suite d'une émeute en octobre 2018 dans le centre de détention des services de renseignement au cours de laquelle des prisonniers avaient pris en otage des gardiens avant finalement de se rendre. En Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a nommé hier soir, 2 semaines exactement après avoir pris fonction, son premier gouvernement composé de 39 membres. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la présidence qui en a donné la composition à la télévision nationale, Bagati Koura.
C'est la première fois que le gouvernement algérien est annoncé en direct de la présidence et par un de ses responsables à la télévision et non via un communiqué officiel. Parmi ses 39 membres, le gouvernement compte 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Il compte également 5 femmes selon l'agence de presse officielle APS. Principale originalité, il ne compte pas de vice-ministre de la Défense, poste qu'occupait depuis 2013 et jusqu'à son décès le 23 décembre, le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le président de la République est traditionnellement ministre de la Défense en titre en Algérie. 4 des 5 principaux ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dirigé par Noureddine Bédoui, nommé le 31 mars par le président Abdelaziz Bouteflika, 2 jours avant sa démission sous la pression des mouvements de contestation inédits. Le 28 décembre, le président Tebboune avait nommé premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence, puis du ministère des Affaires étrangères. Il avait chargé de constituer un gouvernement.
Le premier ministre tunisien a également désigné son gouvernement hier soir, un gouvernement composé de personnalités indépendantes après un mois et demi de tractations difficiles et l'échec des négociations avec les partis politiques. Après donc l'échec de ces discussions, le premier ministre Habib Jemli a annoncé le 23 décembre sa décision de former un gouvernement d'indépendants en raison des tiraillements entre partis dont certains ont imposé selon lui des conditions énorme pour participer au gouvernement. Le bureau du Parlement se réunira demain samedi pour fixer la date de la plénière destinée au vote de confiance, au vote de confiance de ce gouvernement nouvellement nommé. L'Union européenne a exprimé aujourd'hui sa grave inquiétude après l'autorisation donnée la veille par le Parlement turc au président Recep Tayyip Erdogan d'un déploiement de l'armée en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. L'Union européenne réaffirme sa conviction ferme qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise libyenne, selon un communiqué du porte-parole du haut représentant des affaires étrangères. L'Union européenne appelle au respect donc sans faille de l'embargo sur les armes de l'ONU et à soutenir les efforts de l'émissaire des Nations Unies en Libye, Hassan Salamé, qui sont la seule voie vers une Libye en paix, stable et sûre. Israël, Chypre et la Grèce ont aussi dénoncé une menace dangereuse pour la stabilité régionale, de même que l'Égypte. Jean-Roger Bion à ce micro. Aux prochaines infos, dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque. Bon week-end à tous et bonne écoute radiophonique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.